Ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour saluer François Maspero, l'un des plus grands intellectuels français et internationaliste. Et ça, c'est le côté qui me touche le plus. S'il nous a quittés physiquement en 2015, l'esprit, la lettre et le souvenir de ses œuvres et de ses actions nous habitent toujours pleinement. Un immense merci à Entrevue et à la Maison des sciences de l'homme de nous accueillir pour cette soirée qu'ils ont intitulée « L'aventure Maspero ». Ça, c'est le choix d'Entrevue. Nous, notre numéro, notre dossier, il ne s'appelle pas comme ça, mais je vais le dire et Bruno le dira aussi. Donc, la revue A Littérature Action, que je co-dirige avec Laurent Doucet, a consacré dans son numéro 16-17 un important dossier de 200 pages à François Maspero. Et c'est autour de ce numéro, si vous me permettez de le dire, que je trouve remarquable, que nous sommes réunis ici avec une toute petite partie de celles et de ceux, ils sont 20 au total, qui ont contribué sous la houlette de Bruno Guichard, qui est à ma droite, épaulé par Julien Hage, qui n'est pas là, à ce dossier que nous avons donc appelé François Maspero, le veilleur intranquille. Bon, je voudrais une fois encore, au nom de toute l'équipe de la revue A et de Marsa Publications, la maison d'édition qui publie la revue, les remercier, tous ses contributeurs, et plus particulièrement Nils Anderson et Bruno Guichard qui sont à mes côtés ce soir, les remercier de façon appuyée. Notre revue à Littérature Action a pour habitude, au fil de ses numéros, de mettre ou de remettre en lumière des personnalités que je dirais inspirantes à divers titres. C'est ainsi que nous avons célébré, entre autres, Frantz Fanon ou Armand Gatti, mais aussi Jean Sénac ou Marcel Delpastre, encore Albert Cosseri, Kateb Yassin, Isabelle Eberhardt, etc. Donc, l'éditeur, l'écrivain, le reporter, le traducteur, le libraire François Maspero, mais aussi le militant, l'homme de combat, le porte-parole des luttes, se trouve, du coup, en belle compagnie, je crois, parmi les pages de notre collection. Je vais laisser donc les amis vous présenter quelques facettes de l'homme, de l'intellectuel, du créateur, de l'homme d'action. Je me contenterai pour ma part de souligner deux choses. Tout d'abord, l'insigne bonheur et honneur que j'ai ressenti en mettant en musique éditoriale ce très beau dossier, très complet. Et j'ajouterai que pour l'éditrice, la revuiste que je suis depuis quelques années, comme pour la nouvelle génération d'éditeurs et de revuistes critiques, François Maspero incarne aujourd'hui encore la figure tutélaire de l'engagement par l'édition et par les livres. Ensuite, je voudrais insister sur l'impact qu'ont eu les éditions Maspero et aussi le courage politique de l'homme Maspero sur un pays dans lequel j'ai vécu pendant 20 ans, qui m'est cher et dont j'ai épousé les destinées à un moment très sombre de son histoire récente. Je veux parler de l'Algérie. Dans notre dossier, Ben Ammar Mediane et les regrettés Taos Amrouche, Sader Aissat ou Monique Hervault portent témoignage des liens humains et militants que François entretenait avec l'Algérie et les Algériens. Et Abdelatif Chaouit, toujours dans le dossier, élargit le propos au Maghreb. Rappelons quelques faits. Militant anticolonialiste résolu, Maspero fut porteur de valises durant la guerre d'Algérie au sein des réseaux Janson et Curiel, notamment au sein du groupe en charge des évasions. En relais des éditions de Minuit, il engagea sa fragile maison dans le combat contre la guerre qui ne disait pas son nom, mais je pense que Nils Anderson nous en dira beaucoup plus est beaucoup mieux que moi sur ce sujet. En 1961, il publie l'ouvrage « Le procès du réseau Janson », immédiatement saisi. Il lance, en 1961 aussi, « Partisan », une revue placée sous la triple égide de l'expérience algérienne, l'engagement anti-impérialiste et l'héritage de la résistance française. Dans le numéro 2, il dénonce avec virulence la répression du 17 octobre 1961 par une tribune que nous reproduisons dans notre dossier intitulée « Entre les chiens et les hommes » qui amène là aussi la saisie de la revue. Donc, protégé par une poignée d'étudiants, sa librairie fut plastiquée plusieurs fois par l'OAS et à l'issue du conflit, donc ce que nous appelons la guerre de libération algérienne, il était l'éditeur le plus saisi avec Minuit et perdit son distributeur en raison de son engagement. François Maspero restera discret sur tout cela, considérant qu'il n'avait fait que son devoir, puisque, disait-il, je cite, « un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre ». On n'a pas assez insisté, et même dans notre dossier, il en est peu parlé, sur l'importance aussi des publications qui virent le jour chez Maspero pendant la période de la post-indépendance algérienne. Ces ouvrages faisaient vivre une pluralité d'expressions qui avaient bien du mal à exister en Algérie même. En particulier, la pluralité résistante de la culture populaire dans la collection Domaine Maghrébin, dirigée par Albert Mémy. Je citerai seulement trois titres majeurs à mes yeux, qui, cela dit en passant, ont déterminé ma vocation d'anthropologue. Donc, ces trois titres, « Histoire de ma vie » de Fatma et Mansour, la mère de Tao Samrouch, en 69, « Les Isefras de Simohend » par Mouloud Mamri, en 69, « La poésie arabe maghrébine d'expression populaire » de Mohamed Belalfaoui, 72. Alors, les Algériens lettrés de cette génération vouaient quasiment un culte à ces ouvrages. Mais il y eut aussi « Enfant d'hier » de Nefissa Zerdoumi et bien d'autres titres de cette collection qui avaient pour emblème une rosace, figure stylisée d'une broche kabyle. Et je citerai aussi, pour son retentissement là, dans la collection « Cahiers libres », le brûlot féministe, on peut dire, de Fadel Amrabet, « Les Algériennes », publié en 1967. Tellement en avance, tellement à la pointe des luttes. Enfin, et je terminerai par cela, notre dossier consacre quelques pages au collectif d'alphabétisation et au travail mené par François Maspero avec le GISTI, groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés. Il existe toujours, le GISTI. Il avait travaillé avec eux dans les années 70 autour de ce collectif d'alphabétisation, au moment où les pouvoirs publics commençaient ou continuaient, je ne sais pas, à exercer des contrôles systématiques des flux migratoires. Alors, ils avaient publié des manuels, des instruments de lutte aussi, pour la reconnaissance des droits des immigrés, des manuels d'alphabétisation, etc. Et des manuels aussi sur le droit à l'éducation, l'un des droits les plus fondamentaux de l'homme. Le combat ne faisait alors que commencer sur ces thématiques-là, le combat, vraiment le combat fort, et sur ces fronts-là aussi, François Maspero était en première ligne. C'est à noter, c'est important. C'est à cette période qu'arrivèrent en France les parents de celle qui va nous lire ce soir un ou deux textes de François, qui va lui prêter sa voix. La comédienne franco-algérienne Lila Essaoui, que je remercie vivement d'avoir bien voulu nous accompagner dans cette aventure de salutation que nous avons conçue, et je cite, « comme un remède à la mélancolie et comme un désir acharné d'espérance ». Je passe la parole à Bruno Guichard. Et si je devais présenter Bruno Guichard en quelques mots, s'il me le permet.
Vas-y.
Mais bien sûr, je ne serai pas exhaustive parce que Bruno, c'est un univers. Bon, déjà, c'est lui qui a coordonné le dossier, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Et il a écrit là-dedans un magnifique papier d'ouverture qui s'appelle donc François Maspero, le veilleur intranquille. Alors, Bruno, Alors, il est co-réalisateur d'une exposition qui s'appelait « François Maspero et les paysages humains » et d'un livre qui l'accompagne. Et il est réalisateur, co-réalisateur, il va être modeste, du documentaire « François Maspero, les chemins de la liberté ». Bon, ça c'est pour ce qui est de Maspero. Et peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ignore et qu'il va nous dire. Il a été fondateur et animateur pendant 10 ans, on va dire, de la Maison des Passages à Lyon, lieu culturel de l'agglomération qui valorisait la dynamique du métissage comme réponse aux identitarismes. Voilà, il est membre du comité de rédaction d'une revue que j'aime beaucoup et que je crois on aime beaucoup à entrevue qui s'appelle « Écart d'identité », donc c'est important de le dire. Et il est président de l'association Trace sur l'histoire, les mémoires et l'actualité des migrations, qui organise une biennale régionale depuis 20 ans. Il a aussi réalisé en 2021, donc ça c'est une de ses actualités les plus récentes, et peut-être en a-t-il d'autres, qu'il m'a caché. Il a réalisé le documentaire Patrick Chamoiseau, ce que nous disent les gouffres.
Bon, ben merci de ces quelques mots et puis merci de votre présence. Je ne vais pas vous lire un texte parce que je n'aime pas faire comme ça. Je vais vous parler des idées qui me traversent en même temps que je suis ici. Et la première idée, c'est quand je suis monté à Paris tout à l'heure, j'ai repris le thème de cette soirée, l'aventure Maspero. Qui dit aventure, moi, ça m'a interrogé sur où commence l'aventure. C'était ma première interrogation. Où commence l'aventure ? Et ma deuxième interrogation, c'était « C'est quoi cette aventure Maspero ?» Et puis, ça m'a renvoyé à un texte, magnifique texte de Philippe Lançon, dans Libération, qui ne parlait pas, lui, de l'aventure Maspero, mais de l'étoffe des Maspero. Et donc, du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faut se rappeler entre nous d'où vient François Maspero. Parce que c'est un peu oublié ou c'est pas très connu. Hein. Dans la famille de François Maspero, je vais dire deux, trois choses. Et puis, bon, si vous connaissez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Si vous voulez compléter, vous compléterez. Maspero, c'est un enfant d'immigré. La famille Maspero, son arrière-grand-mère, arrive en France dans les années 1840. Et son grand-père, né en 1846, Gaston Maspero. Gaston Maspero va être un intellectuel très connu, très reconnu, égyptologue, hein, connu surtout sur les travaux sur l'Égypte, mais pas que, connu aussi pour son indépendance d'esprit, pour sa liberté. Quand il était étudiant à l'école normale sup qui venait d'ouvrir, bon, il a refusé un certain nombre de choses, hein, il a refusé de se plier à un ordre établi hein, de l'éducation. Du coup, il a été exclu hein, de normale sup, il est revenu... Il est revenu par la fenêtre hein, en réintégrant le monde universitaire. Mais ils en ont tiré comme conclusion dans la famille Maspero, on n'est pas des universitaires, mais on est plutôt des intellectuels. Voilà. Ils faisaient ce distinguo-là. Gaston Maspero était marié en deuxième noce avec quelqu'un d'important, qui était donc la grand-mère de François, hein, qui était Madame Baluet d'Estournel de Constant de Rebec, ce qui fait une appartenance à la famille de Benjamin Constant. et une appartenance à la famille de celui qui fut de Paul d'Estournelles de Constant, prix Nobel de la paix en 1909. Je rappelle ça parce que c'est important, y compris dans l'imaginaire de François, quand il acceptait d'en parler. Prix Nobel de la paix, pourquoi? Parce que c'était un homme qui a été un peu à l'origine de la création de la SDN, la Société des Nations, et qui, en tant que diplomate français, s'est toujours battu pour trouver tout ce qui pouvait éviter les guerres. Hein. Voilà, donc on a d'un côté l'égyptologie, avec tout ce nom énorme hein, de Gaston Maspero dans l'égyptologie, et puis ce deuxième nom, hein, d'Estournelles de Constant, avec cette... je dirais, comment on trouve des conciliations. Hein. Mais François, quand on discutait avec lui, il en parle dans ses livres, hein, quand il parle de ça, il a retracé son histoire dans plusieurs de ses ouvrages. Hein. Bon, mais voilà, c'est l'étoffe des Maspero ou l'aventure Maspero. L'aventure Maspero, elle est née là, hein, elle est née dans cette famille-là. Son père, Henri Maspero, il est né en 1853, il va mourir à Buchenwald, le 17 mars 1945. Son père, il n'est pas égyptologue, il est sinologue. Malheureusement, c'était un des regrets de François quand on discutait avec lui, c'est son père n'a pas pu finir sa carrière universitaire, emporté par les luttes de la résistance, mort à Buchenwald, et tout son travail de sinologue n'a pas pu être mené à son terme. Hein. Et voilà, je sais que dans les archives Maspero, il y a des choses qui existent autour du travail d'Henri Maspero. Et la mère de François, c'était Hélène Claire. Hélène Claire, c'est une famille plutôt dans le monde médical. Je dis ça parce que là, on est dans le monde universitaire, hein, avec le père d'Hélène Claire, qui était un prof de médecine très connu hein, sur la région parisienne, spécialiste du cœur. Et puis, voilà, pour l'anecdote, ils avaient une maison dans le Pas-de-Calais, à Outreau. Et François, ça le faisait sourire parce que la maison de sa famille, c'était là où on a vu les HLM d'Outreau, cette misère capitalistique, je dirais. Hein. Voilà, ça c'est le... Il faut rappeler cette famille, et puis il faut rappeler dans la famille quelque chose qui sera un acte fondateur, un élément fondateur de la vie de François Maspero, c'est son frère. Son frère Jean Maspero, qui est né en 1925, voilà. François est né en 1932, hein. Son frère est né en 1925. Son frère, il était dans la filiation du grand-père et du père et du grand-père. Hein. C'était un intellectuel. Jean Maspero, c'était un intellectuel. Arrivent les heures sombres que la France a connues régulièrement dans son histoire. Et dans ces heures sombres, son frère s'engage très, très rapidement dans la résistance. Au même titre, d'ailleurs, que le père de François Maspero, qui va être arrêté en 1941 dans le réseau du Musée de l'Homme. Je vous rappelle ça parce que là, c'est Maspero. Là, vous avez du Maspero à fleur de peau. Quand Maspero parlait de ça, il tremblait et il pleurait. Il tremblait et il pleurait. Et parce que sa vie, c'est ça, en fait. Sa vie, c'est... Voilà, je crois que c'est important de le dire. Et sa mère était aussi dans la résistance. Hein. Sa mère distribuait les journaux de toute appartenance, les journaux clandestins hein, durant la guerre. Bon, elle accueillait... les résistants qui étaient avec son fils. Hein. Donc son fils son fils sera membre des FTP. Il va diriger la jeunesse étudiante de Paris. Il avait la rive gauche. Jean Popraine, va passer à travers la guerre, sera un des dirigeants du Parti socialiste. Après, à l'époque, ils étaient tous les deux au Parti communiste français. Donc dans les FTP. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 3 attentats. Le frère de François Maspero fait 3 attentats. Le dernier se passe mal, hein, et donc il est obligé de fuir. Bon, je vais passer sur l'histoire de la fuite du frère de François Maspero, de Jean Maspero, parce que les universitaires français de l'époque, alors que ses parents étaient vraiment dans le monde universitaire, n'ont pas été très sympathiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a failli frapper à plusieurs portes, il a fallu qu'il frappe à plusieurs portes pour trouver quelqu'un qui accepte de l'héberger et de prévenir la résistance de ce qui lui était arrivé. Bon, finalement, Jean Maspero va être engagé dans l'armée américaine, ce qui est exceptionnel. Hein, il va se réfugier à Angers, enfin se réfugier entre guillemets à Angers. Il va s'engager dans la 3e armée américaine. Il va demander dans l'armée américaine d'être engagé dans les premières lignes. Il va être dans les premières lignes comme traducteur. Hein. Et malheureusement, sur la bataille de Dornau, sur la Meuse, hein, il va être victime de d'une mauvaise bataille où les Américains sont tombés dans un piège tendu par l'armée allemande. Voilà. Et je tiens à signaler par rapport à ça que l'armée américaine a rendu un hommage et rendait chaque année hommage au Frenchman. Le Frenchman, c'était Jean Maspero, ce que n'a pas fait ni le Parti communiste, ni l'armée française. Voilà. Il faut aussi dire qu'avec son frère, il a fait de la résistance, enfin, ce que peut faire un gamin de 10 ans. Hein. Quand son frère allait piquer des tickets de rationnement, une fois ou deux, il l'a emmené. Il a appris à François Maspero à démonter un pistolet. Voilà. Donc, c'était. Je dis ça parce que cette idée de résistance, elle est là. Hein. Et puis, je termine dans l'histoire de François de cette époque-là. L'élément, y compris qu'on va retrouver dans ses livres, c'est l'arrestation de ses parents. En juillet 1944, fin juillet 1944, le 28 juillet 1944, la Gestapo donc, vient arrêter son père et sa mère pour des raisons diverses, en fait. Hein. D'abord, il recherchait Jean Maspero, bien évidemment. Hein. Il avait été repéré comme étant l'homme du troisième attentat. Et puis, également, la présence de son père dans les réseaux de résistance. Hein. Entre autres, les réseaux liés aux Anglais. Voilà. Et François Maspero dira, en fait, je suis né le 28 juillet 1944. J'ai l'avantage d'avoir connu le visage de ma sage-femme. C'était un officier de la Gestapo. Et ça, c'est Maspero. Dans toute sa chair, dans toute son émotion, dans tous ses engagements, le cœur des engagements de Maspero, c'est le 28 juillet 1944, quand une partie de sa vie s'écroule. Il n'a jamais nié l'importance d'être dans la résistance, il n'a jamais remis en cause les engagements de ses parents, les engagements de son frère. Et dans le documentaire qu'on a fait, il a même dit « Moi, je suis fier que mon frère ait tué des officiers allemands, qui étaient des officiers nazis. Ouais, » Il dit ça, il n'y a pas longtemps, hein. Il y a une dizaine d'années, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'étoffe des Maspero, comme disait Philippe Lançon. Bon, je tire à grands traits. Puis je voudrais revenir maintenant sur pour compléter un peu ce que tu as dit, Marie, sur ce qu'a fait François Maspero. François Maspero, il ouvre sa première librairie, c'est en 1955, et à l'escalier rue Monsieur le Prince. Et en 1955, François Maspero, qui c'est qu'il accueille dans sa librairie? Eh bien, il accueille les anticoloniaux. Il accueille les intellectuels, les dom-tom. C'est là où il va rencontrer Aimé Césaire, c'est là où il va rencontrer Mario de Andréade, c'est là où il va rencontrer Cabral. Donc, on est là, au sein de cette première librairie de François Maspero, je dirais, ce qui est un des fondements, après ça, de son travail d'éditeur autour des luttes anticoloniales. Donc voilà, c'est à ce moment-là. François Maspero participe à cette rencontre de 1956 à la Sorbonne, des artistes et écrivains noirs. Une rencontre très importante, hein, parce qu'elle donne le tempo, elle essaye de mettre des mots sur les luttes anticoloniales de l'époque, les luttes anticoloniales aussi bien politiques, militaires que culturelles. C'est dans cette rencontre-là que Maspero va rencontrer Frantz Fanon, va rencontrer une partie des dirigeants noirs des luttes anticoloniales. 1956, le colloque de la Sorbonne. Et date, tu veux compléter, vas-y.
Je voulais juste dire que trois de ceux qui y étaient ce jour-là font des numéros de notre revue, oui, c'est-à-dire Fanon, ouais. Sénac, Maspero.
Voilà. On est bien important de dire ça. En 1957, il change de librairie, il ouvre La Joie de Lire. La Joie de Lire, elle va durer jusqu'en 1974. Il ferme la librairie pour des raisons multiples, dont une souvent est passée sous silence, qui est l'épuisement personnel. Des batailles internes dans la librairie, ça n'a jamais été simple. Il avait embauché beaucoup de gens de l'extrême gauche. Il avait un regard à la fin un peu critique sur ces embauches, des gens qui confondaient, un travail politique et puis un travail de libraire, voilà. Hein. Mais c'est intéressant de le dire parce que c'est ça aussi, ça façonnait qui était François. Et bon, il y a eu les vols dans la librairie, ce scandale permanent. quand on a présenté le documentaire, chaque fois qu'on a présenté le documentaire avec François, on est allé dans beaucoup d'endroits en France, il y avait toujours quelqu'un pour lever la main et dire « Monsieur Maspero, j'ai volé des livres chez vous. » Une honte, une honte, une honte. Parce qu'à Paris, à la Maison des Métallos, moi, j'ai vu François pleurer. Il me dit « Bruno, arrêtez-moi, je vais lui mettre sur la gueule. » Voilà. Et ça, c'est toujours... Il n'y a pas eu un endroit où ça ne s'est pas produit. C'est quand même hallucinant. De ça, François, il en a fait une tentative de suicide, quand même. Difficulté interne à la librairie, les vols. Et on a voulu mettre dans la revue quelque chose que... C'est le soutien des gens d'Harakiri. Bon, il y a un très beau dessin. Enfin, un dessin. En fait, c'est sur l'affiche de... Sur l'entête d'Harakiri, bon, les gens signent « On est avec toi, François, tiens bon ». Bon, et dans les signataires, ben, il y en a plusieurs qui ont été tués par les frères Kouachi hein, dans les assassinats de janvier 2015. Terrible assassinat. Parce que François était invité à... On était invités tous les deux avec le documentaire et l'exposition à Bruxelles. Et François me dit, Bruno, je ne vais pas, j'ai rien à dire. J'ai perdu des amis aujourd'hui et je peux rien dire. Et les gens de Bruxelles l'attendaient. Hein, voilà, il a eu, finalement, c'était le lendemain. Bon, j'ai réussi à... J'ai dit, François, il faut que vous veniez, vous ne pouvez pas ne pas venir. Il s'est retrouvé dans une salle où il y avait, je ne sais pas comment c'est possible, 1500 personnes à Bruxelles. Bon, voilà, je ne connais pas bien la Belgique, mais un truc énorme. Et il a eu droit, comme accueil, un applaudissement pendant une dizaine de minutes. Et là, il n'y a pas eu de réflexion sur « On est venu voler des livres dans votre librairie ». C'était l'homme Maspero reconnu pour ses engagements. Voilà. Donc ça, c'est la joie de lire. La maison d'édition est lourde en 1959. Le premier livre qu'il va éditer, c'est important de le dire, parce que c'est un livre sur la guerre d'Espagne de Pietro Nenni. La guerre d'Espagne, c'est la répétition générale de la Deuxième Guerre mondiale. Et François Maspero parlait un peu comme ça, quand, tout de même. C'est la répétition générale, et ce livre intervient 20 ans de silence sur la guerre d'Espagne. Ouais, enfin, 20 ans, oui. Enfin, même plus de 20 ans. 25 ans de silence sur la guerre d'Espagne. Et donc, c'est François Maspero. Et là, c'est une forme de courage politique dès le premier livre. Hein, je crois que c'est une forme de courage politique dès le premier livre. Et puis, la maison d'édition, elle va s'arrêter en 1982. Il y a la lassitude, bien évidemment. François voulait écrire. Hein. Il voulait écrire. Il a beaucoup écrit, je vais vous en dire deux mots après. Il a beaucoup écrit. Là, il voulait écrire. Et il cède la maison d'édition pour un franc hein, à François Gèze. Je dis bien, il cède. On ne va pas revenir, sauf si vous avez des questions, j'en parle un peu dans mon texte, sur les conditions de la cession à François Gèze de la maison d'édition. Ça s'est mal passé, finalement. Ça s'est pas très bien, enfin, mal passé. Pas très, très bien passé. Et il va garder une seule revue, c'est la revue L'Alternative, qui va continuer. Alors, la revue L'Alternative, c'était donner la parole à... Bon, nous, on disait ici les dissidents, mais je ne sais pas si c'est le mot juste. Eux s'appelaient aussi un peu comme ça. Quand on les connaissait, ils s'appelaient un peu comme ça. Bon, mais comme le disait Maud Zelensky, on a chevauché l'histoire. C'est un très beau livre de ses mémoires. On a chevauché l'histoire. Et tous ces gens qui ont renversé le communisme, qui se sont battus, mais pratiquement au lendemain de la guerre, les premières révoltes, elles sont à Berlin-Est. Maspero écrit dans la revue Partisan, justement, donne aux étudiants de Prague... Il publie les revendications des étudiants de Prague en 1968. Donc, c'est un sujet qu'il a toujours questionné. Hein. Il s'est toujours interrogé sur c'est quoi ces régimes de l'Europe de l'Est. Certes, il a fréquenté le Parti communiste, pas très longtemps. Mais voilà, il a fréquenté le Parti communiste, mais il est resté, je dirais, sur cette interrogation. Hein. Les espérances, c'est bon. Le chemin est rude pour arriver aux espérances. Bon, allez, l'alternative, il va la garder jusqu'en 1984. Ils arrêtent l'alternative. Pour une raison assez simple, c'est qu'à un moment donné, ils ont vu arriver autour d'eux les courants nationalistes qu'on voyait commencer à apparaître dans l'Europe centrale et orientale. Et là, François a préféré arrêter. Bon, il aurait pu continuer, bon, se séparer de ces courants-là. Bon, il a préféré arrêter. Et puis, bon, se consacrer à l'écriture. Le premier livre de François Maspero, c'est 1984. C'est « Le sourire du chat ». François Maspero, c'est une œuvre considérable. C'est un créateur phénoménal. Il y a 12 romans et essais, quand on fait le bilan. 80 traductions, François Maspero. Des traductions de toutes sortes. Hein. La dernière, c'est César Valero. Hein. Un nombre, aujourd'hui, non calculé de préfaces, de postfaces, d'accompagnement de livres. Hein. Un nombre important de reportages dans l'Observateur, le monde diplomatique et France Culture. Une anecdote, excusez-moi, je vous livre des anecdotes. On a voulu reproduire des articles de François qui ont été publiés dans Le Monde et dans l'Observateur. Quand il y a eu le coup d'État des colonels grecs, le lendemain, il était en Grèce et il a fait un article pour l'Observateur. Et puis, il y a des articles aussi au moment de son voyage en Bolivie, quand Régis Debray a été arrêté. Et donc, on a demandé au Monde et à l'Observateur, le nouvel Observateur, l'autorisation de reproduire ces articles. Bon, ils nous ont demandé des sommes astronomiques. Donc, on a décidé de ne pas... de ne pas donner suite. Mais c'était 1 000 euros. Hein. Je leur dis, mais c'est complètement... Vous êtes fous, c'est de la folie, ça ne correspond pas à la réalité. Et en plus, c'est des documents pour l'histoire. Aujourd'hui, c'est pas... Voilà. Hein. Et à la fin, comme on s'est un peu disputé avec la chargée des reproductions au Monde, je lui dis, vous savez, c'est idiot, votre demande, parce qu'ils sont inaccessibles sur Internet, ces articles. Voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. Alors, je voudrais maintenant revenir sur comment on a fabriqué... Enfin, l'anecdote, ça, c'est l'anecdote. Le reste, c'est pas l'anecdote. Moi, je voulais revenir sur... voilà. François Maspero, c'est aussi ça. C'est une famille, c'est une histoire qui commence en Italie, finalement. Quelque part, elle commence en Italie. Et aujourd'hui, elle n'est pas finie. C'est... voilà, on est sur une longue période. On est sur un siècle et demi de traversée du monde. Hein, c'est la France, bien évidemment, mais on est dans le monde, aussi bien avec son père, son grand-père, qu'avec lui-même, dans son travail d'éditeur, dans son travail de journaliste. Comment est-ce qu'on a fait ce numéro ? Quand, voilà, je vais vous dire quelques mots sur la fabrication du numéro. Au début, bon, Marie m'appelle, on discute un peu, et je lui dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire encore sur François. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas comment les dire. Et puis, bon, je lui ai demandé une semaine de réflexion. Hein, et je dis, écoute, si on part ensemble, on part sur cette idée de veille. Parce que quand on lit aujourd'hui les écrits de François Maspero, même ses écrits durant la maison d'édition, on reproduit dans ce numéro des préfaces de François de la maison d'édition, du fond des éditions Maspero. Cette idée de veille, elle est là depuis le début, en fait. Elle est là depuis le début. Cette idée d'être une vigie, hein, d'être en alerte en permanence. Et quand on est en alerte en permanence, c'est tout sauf le repos. Hein. Et donc, je dis, écoute, si on part sur cette idée de veille, OK, on y va. Et on a essayé de construire ce numéro autour de l'idée de veille. Hein, voilà. Après ça, on avait des écueils qu'on voulait pas, qu'il fallait à tout prix éviter. C'est reproduire ce qui avait déjà été fait sur François Maspero. Donc, bon, il y a le travail qu'on a fait autour de l'exposition, autour du documentaire, autour d'un dialogue avec Paul Blanquart, là, qui vient de nous quitter. Il y avait aussi le travail de Chris Marker, les 15 minutes de Chris Marker sur les mots ont un sens. En fait, il n'y avait pas grand-chose sur François de centraliser un peu. Hein, c'est, voilà, il n'y avait pas énormément de choses. Donc, mais il fallait quand même éviter les écueils de la reproduction. Et donc, voilà, ça, c'était le premier écueil. Et avec l'idée de veille, là, on a franchi, effectivement. On a ouvert un champ de réflexion, je crois. Après ça, la deuxième idée, c'était de laisser parler les amis de François Maspero. Alors, il y a les amis historiques. Bon, Nils en fait partie. C'est des gens qui ont connu François à l'origine de la maison d'édition, de la librairie, voilà. Hein. Il y a Jean-Yves Potel aussi, qui est dans le numéro, hein, qui a travaillé avec François sur la revue L'Alternative. Et puis, pour la première fois, il y a des amis, je dirais, contemporains de François, enfin, post-maison d'édition, post-librairie. Je pense à ses amis dans les Cévennes, je pense à Caroline Troin, voilà, qui ont accepté d'écrire dans ce numéro.
Oui, les amis dans les Cévennes, on va quand même préciser que François Maspero a fait les transhumances avec eux. C'est pas rien, hein, voilà.
Hein, oui, mais j'allais expliquer.
Ah, tu allais venir. Oui,
j'allais venir. Pardon, Bruno, non, 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 non. Alors, pourquoi les Cévennes ? Les Cévennes, si vous voulez, Il y a dans les Cévennes des bergers qui se présentent. Ils se présentent bergers honoraires maintenant parce qu'ils sont à la retraite. Ils se présentent comme bergers honoraires. Bon, c'était des fondateurs de la Confédération paysanne. Hein. Et avec François Roux, qui est avocat à Montpellier, ils ont eu cette idée un jour de faire venir dans les Cévennes des gens qui se battent à travers le monde. Hein, voilà. Donc, chaque année, au moment de la transhumance, ils disaient, Bernard Grolier, qui était un des bergers, j'avais deux troupeaux, j'avais les moutons, et puis une bande d'intellectuels qui suivaient des troupeaux. Et là, on passait trois jours extraordinaires de rencontres, d'échanges. Et ils aiment aussi à dire, ces gens... Nous, on ne pouvait pas se déplacer parce qu'on n'a pas les moyens de se déplacer, mais notre lieu a permis d'accueillir le monde. Voilà. Et donc, ils faisaient les transhumances, ça a duré une quinzaine d'années, hein, tous les mois de juin. Et puis, autre là, c'est la première fois qu'ils s'expriment. Hein, voilà. Donc là, pour les faire parler, ça n'a pas été simple. Voilà.
Et il y a de belles photos. De Patrick Lescure. Voilà. Où on voit comme un apéro avec les moutons dans les beaux paysages des Cévennes.
Et donc toujours dans ces amitiés post et maison d'édition, il y a Caroline Troin. J'ai un mot particulier sur Caroline Troin, qui est fondatrice du festival de cinéma de Douarnenez. Je ne sais pas si vous connaissez cinéma indépendant. Et François Maspero était un jour l'invité d'honneur au festival de Douarnenez. Il dit, mais ce qui me plaisait dans votre festival, c'est qu'il n'y avait jamais de premier prix. Et voilà, il y avait un festival, on découvrait des cinéastes, mais il n'y avait pas de remise de prix. Bon, Caroline Troin, elle est... Voilà. Donc on a réussi à ce que ces gens-là, une drôle d'expression, à ce qu'ils acceptent d'écrire et de parler de leur amitié avec François, ce qui n'est jamais une mince affaire que de parler des amitiés. La troisième idée qu'on retrouve dans ce travail-là, quand on fait le bilan, c'est qu'on essaie de faire vivre un fonds Maspero, qui a créé. Hein. Il n'y a pas de... Pour l'instant, les archives de Maspero, elles ne sont pas déposées. Il n'y a pas de personne... Il y a des gens qui ont travaillé sur... Julien, j'ai beaucoup travaillé sur François Maspero, il continue à y travailler. Mais on pourrait imaginer qu'il y a un fonds Maspero qui soit un jour existant, hein, avec l'ensemble des éditions. C'est 1350 livres, les maisons d'édition, quand même. C'est pas une mince affaire. On est là dans des choses significatives. Je ne reviens pas sur les livres interdits, sur l'histoire, peu importe. Hein. Mais je me dis, voilà, la troisième idée, c'était donner à voir ce que pourrait être un fonds Maspero. Et donner à voir ce que pourrait être un fonds Maspero, d'où l'intérêt d'aller piocher dans des postfaces, dans des préfaces, et puis y compris dans des préfaces du temps des éditions Maspero. Voilà. Donc c'est voilà les trois choses. Maintenant, et puis je vais m'arrêter parce que je vois que l'heure tourne. Pourquoi ce titre, Le Veilleur Intranquille? Alors il y a plusieurs raisons. La première, je vous l'ai donnée, hein, c'est quand on travaille sur les écrits de Maspero, l'idée de veille est constamment présente, elle est là. Hein. Elle est là, on les retrouve dans ses livres, on les retrouve dans... Je vais pas vous abreuver de citations, je vais juste en faire une ou deux quand même. C'est dans Les Abeilles et la Guêpe. Il y a un chapitre qui commence par cette phrase de Zbigniew Herbert, le poète polonais, qui a porté très haut la liberté et l'indépendance de la Pologne. Mais qu'est-ce que la mort héroïque, Dieu sait si en Pologne c'est important, auprès de la veille sans fin? Ouais, belle question. Belle interrogation. Et puis, François Maspero avait un frère en écriture, un frère qu'il n'a pas connu, qu'il n'a jamais connu, s'appelait Robert Desnos. Et l'idée du veilleur, elle vient d'un texte de Robert Desnos, Le Veilleur du Pont au Change. C'est un texte que Robert Desnos écrit en 1943, il va être arrêté en 1944, hein, et il va mourir à la libération du camp de Térézine. Et bon, il y aura une soirée hommage hein, en 1945, une soirée hommage en 1945 au poète de la résistance. Et ce texte-là va être lu, mais il ne sera pas lu sous le nom de Robert Desnos, hein, qui à l'époque, on ne sait pas trop où il est, mais enfin bon, il est entre les mains des nazis. Je vais lire juste une phrase ou deux parce que pour celles et ceux qui ont approché François Maspero, ils vont dire ah ouais. Je suis le veilleur du pont au change, veillant au cœur de Paris dans la rumeur grandissante, où je reconnais les cauchemars paniques de l'ennemi, les cris de victoire de nos amis, ceux des Français, le cri de souffrance de nos frères torturés par les Allemands d'Hitler. Je suis le veilleur du pont au change, ne veillant pas seulement cette nuit sur Paris, cette nuit de tempête sur Paris, seulement dans sa fierté et sa fatigue, mais sur le monde entier qui nous environne et nous presse. Dans l'air froid, tous les fracas de la guerre cheminent jusqu'à ce lieu où depuis si longtemps vivent les hommes. Je suis le veilleur du pont au change et vous salue au seuil du jour promis, vous tous, camarades de la rue de Flandre, à la poterne des Peupliers, du point du jour à la porte dorée. J'ai donné rendez-vous à toute la terre sur le pont de change, veillant et luttant comme vous tout à l'heure, prévenu par son pas lourd sur le pavé sonore, moi aussi j'ai abattu mon ennemi. Voilà, quand on lit, alors c'est un court extrait de ce texte qui est très long, il y a tout François Maspero dans ce texte, et d'où le titre, Le veilleur intranquille. La veille n'est pas suffisante, il faut aussi interroger la veille. Et voilà, Maspero, il savait interroger la veille. Et lorsque j'ai travaillé sur ce numéro, François Maspero était un traducteur, je vous ai dit, plus de 80 livres. Et j'ai trouvé un travail de Mahmoud Darwish dans un... Je ne me rappelle plus, là, je ne l'ai plus dans ma tête, mais je me demande si ce n'est pas « La terre nous est étroite ». Mahmoud Darwish fait une préface sur la question de la traduction. Et c'est extraordinaire parce qu'il écrit ceci. Le traducteur n'est pas le peintre de la partie éclairée du sens, mais le guetteur de l'ombre de ce qu'elle suggère. Le guetteur de l'ombre de ce qu'elle suggère. Et là, on retrouve le formidable travail de François Maspero. Voilà, et puis je terminerai parce que je relisais, après ça je m'arrête, je vous assure. Je relisais le dernier livre de François Maspero qui avait pas été, qui était un peu égratigné par la critique, mais dont on rend hommage dans ce livre avec le travail de Frédéric Thomas. C'est des saisons au bord de la mer. Et François parle justement de la mort de son grand-père du côté de sa maman, donc d'Antonin Clerc, qui était professeur de médecine. Donc il l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie à Outreau. Et il dit ceci, à l'heure du débat qui nous occupe, enfin pour certains et certaines d'entre nous, sur la fin de vie, ce qui terrifie, ce n'est pas la mort qui vient, c'est la vie qui refuse de partir, qui s'accroche comme une bête méchante, toujours prête à mordre chaque parcelle du corps. Voilà. Je m'arrêterai sur cette phrase parce qu'il y a la lucidité de François Maspero. Son humour aussi, c'est un peu, voilà, je trouve qu'on retrouve beaucoup de François dans cette dernière phrase. Je vous remercie, excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long.
Bravo. Eh bien, cher Niels, à toi la parole. Bon, Niels, je vais le présenter en deux mots, mais vraiment en deux mots. Niels, il est un grand éditeur et un grand politiste. Et maintenant, il a bien connu François Maspero et il va nous en parler et il va nous parler de ce qu'ils ont connu, vécu ensemble, entre autres. Et il nous parlera de ce qu'il veut aussi.
Oui. Bien, avant d'en arriver à mon propos principal, dans votre introduction, vous avez rappelé les ennuis que François avait eu avec son diffuseur au début des éditions. Ça m'a rappelé, c'est là, ce moment-là où j'ai rencontré François. Je diffusais déjà l'édition de Minuit et d'autres éditeurs. Il publie La guerre d'Espagne de Pietro Nenni et L'an 5 de la Révolution algérienne de Frantz Fanon. Évidemment, je viens à Paris, j'étais en Suisse, et je viens aux éditions à La Joie de lire, qui était le siège à l'époque des éditions, pour le rencontrer et pour lui demander si ce n'est pas possible de diffuser d'emblée ces nouvelles éditions. Alors, il y a la librairie, on descend un escalier, il y a à l'époque les éditions étaient dans le sous-sol, qui est devenu ensuite librairie à son tour, avec l'agrandissement de la Joie de lire. Et je rencontre pour la première fois François. Et je lui propose donc de le diffuser. Et il me dit, quel dommage, j'ai signé un contrat avec Segers. Il y a une exclusivité, c'est impossible. C'est Segers qui était son diffuseur, c'est impossible de chambre, mais je le regrette beaucoup. Bon. Tout aurait pu s'arrêter là, dans nos relations, mais Segers, effectivement, opposé au livre publié par François, rompt le contrat. Donc François me recontacte et me dit, vous pouvez me diffuser en Suisse. Donc c'est ça le début de notre aventure et notre relation. Je voudrais rappeler un peu quand même une situation de la librairie, de l'édition et politique. Combien différente alors ? On est dans les années 50. C'est très différent d'aujourd'hui. Disons, le discours hégémonique, le discours politique hégémonique et le discours de la gauche, même du PCF, Roger Nimier et les autres sont marginalisés, c'est des gens qu'on pense éteints idéologiquement et intellectuellement. Et c'est dans ce contexte-là que va naître et se développer et la première librairie de François et la Joie de lire et les éditions. Et c'est là où François va jouer un rôle considérable. Considérable parce que il va insensiblement, avec les livres qu'il publie, et par le rôle de la librairie. La librairie était un rôle essentiel, était un instrument essentiel de l'existence des éditions Maspero. Essentiel. La librairie de la Joie, c'était déjà le cas aux la librairie d'Escalier, mais est devenue un centre où on ne pouvait pas venir si on habitait la province et qu'on était intéressé par le livre et la politique, on ne peut pas ne passer chez François Maspero. Mais c'est devenu du monde entier. C'est-à-dire qu'un Sud-Américain, un Africain, un Vietnamien qui venait à Paris et avec des idées de gauche, le passage à la Joie de lire était un passage obligé. Ensuite, il faut dire aussi, il y a le rôle de François, mais à l'origine de la Joie de lire, il y a aussi ce qu'on appelait à l'époque le Dream Team, hein, qui était composé de Dupré, de Jeanne et de Marie-Thérèse, qui était une équipe absolument formidable, de la conscience de la librairie, de l'ouverture. Et c'est là où ils ont brisé quelque chose. Tout y était. Tout ce qui touchait la gauche était présent dans la librairie de la Joie de lire. Tout.
Et d'ailleurs, Nils, tu as titré ton intervention dans le dossier « François, l'ouverture ». Oui. J'insiste sur cette ouverture, justement.
Oui, et on disait le veilleur, et je pense aussi l'éveilleur. Et donc, ça, dans le contexte des années 50, c'était quelque chose qui a été un mouvement essentiel. C'est-à-dire qu'à travers son rôle d'éditeur et le rôle de sa librairie, le débat s'est éclaté, a élargi. Il n'était plus concentré sur, finalement, une idéologie importante, mais quand même refermée sur elle-même. Et en plus, ça se passait dans un contexte où la politique, très profondément, bien sûr, les événements d'Algérie contribuaient, mais la guerre froide, et tout le contexte de l'époque, enfin, y contribuait. Il y a, dans la jeunesse, à un moment, il y a des ferments. On a peut-être un ferment inversé aujourd'hui, hein, où les gens vont à la littérature de gauche. Il y avait ce phénomène qui avait beaucoup étonné à l'époque. Jean-Jacques Pauvert édite dans sa petite collection Liberté le manifeste du Parti communiste. Bon. il en vend 100 000 exemplaires, plus que les éditions sociales en avaient vendu depuis 1945. C'est un phénomène. C'est, bon, c'est, bon, c'est, y a un ferment qui est alors dans la jeunesse, auquel participe beaucoup naturellement la guerre d'Algérie et le contexte politique de l'époque. Mais c'est, la joie de lire et les éditions Maspero vont être aussi portées par ça. Ça va être un accélérateur de ce besoin. Alors où le rôle de François va aussi être très important, c'est que, si on prend les livres qui étaient sur la guerre d'Algérie, incontestablement, l'éditeur qui a révélé, dénoncé et fait que c'est un élément essentiel de la dénonciation de la guerre d'Algérie, qui a dénoncé la torture, c'est incontestablement les éditions de minuit. C'est les éditions de minuit qui ont été l'édition phare pour Djamila Bouguered, La Question, La Gangrène, il dit, bon, incontestable. Le rôle de Maspero dans ce contexte-là, plus que pour dénoncer la torture, a été de faire connaître la décolonisation dans son ensemble, c'est-à-dire en Afrique noire, l'Angola, le Congo, la Guinée-Bissau, mais en Amérique latine, le Vietnam, etc. Donc, son rôle a été beaucoup plus large et il l'a fait de manière très importante parce qu'il en a fait comprendre les différences. Quand on lit Maria Tegui, le livre sur la révolution en Amérique latine, ça fait comprendre d'autres approches, d'autres conceptions. Cabral, quand il parle de la révolution en Guinée-Bissau, c'est aussi, il est en train d'ouvrir une voie africaine de révolution. C'est important, la même chose. Donc, il fait comprendre combien la révolution n'est pas un modèle unique, mais il est propre à chaque pays, à chaque nation, à chaque culture. Hein. Et ça, c'est une ouverture importante que François apporte. Donc, ce rôle a été, je pense que les éditions Maspero, mais La Librairie de la Joie de Lire, c'est mythique. C'est mythique, c'est un peu comme quand on parle de Montparnasse dans les années 20, c'est une librairie absolument mythique. Donc, François a naturellement a ouvert le champ, alors très très loin, il n'y a qu'à voir le nombre de collections, de sujets qu'il a abordés dans l'histoire du mouvement ouvrier, les questions du féminisme. Il a élargi le champ à tous les débats qui étaient alors ceux qui traversaient cette société. Et dans une idée...
Est-ce que je peux, pardonner, oui. Je vais te couper, parce que je voulais dire justement, je voulais en parler après, mais tu en parles. Pour le féminisme, tu disais éveilleur. Oui. Mais 1970, Partisan, texte d'un collectif de militantes, donc, Partisan numéro 54-55, 1970. Oui. C'est-à-dire avant même que le MLF, le MLAC, Mouvement pour liberté de l'avortement, etc., se muscle. Déjà, il donnait la parole dans Partisan à ce groupe de militantes.
Des militantes.
Et il leur donnait la parole militante à des militantes. Voilà, je voulais le dire.
Non,
donc
c'est,
en pointe aussi, en avance, éveilleur sur le féminisme.
Il était dans beaucoup de domaines, dans l'économie, la même chose avec les travaux de Bettelheim, le marxisme avec Althusser, et dans combien d'autres choses. Mais il y avait ce côté extrêmement important, c'était son internationalisme. Son internationalisme dans le sens où il faisait connaître les pensées d'ailleurs, hein. Et ça, c'est une ouverture qui a été très importante et qui distingue beaucoup la génération des années 50 de celle des années 60. Les années 60, à mon avis, se sont refermées sur elles-mêmes. Hein. Le 68 français est redevenu le centre, le 68 italien est revenu le centre, le 68 allemand est revenu le centre, et on a perdu un peu ce côté où il y avait un jaillissement de connaissance de l'autre et de au-delà de la fraternité, simplement de l'acte de fraternité. Donc, on peut citer les liens de François Maspero et Credo Iberico, qui ont été fondamentaux, et l'aide qu'il a apportée à ce moment-là aux Espagnols qui étaient soumis encore au franquisme. Donc, tout cela était important. Et effectivement, il y a aussi le rôle de François dans les réseaux de soutien. Il a été concrètement engagé, c'est-à-dire dans le réseau Janson, puis après l'arrestation du réseau Janson dans le réseau Curiel, et à la fois, effectivement, pour les passages de frontières. C'est du reste très révélateur du climat et du mode de fonctionnement de l'époque. Très souvent, il faisait ses passages, se faisaient en Suisse, sur la frontière Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, où le correspondant était un fleuriste neuchâtelois qui s'appelait Baudin, et auquel il venait apporter les évadés ou les blessés qui devaient passer la frontière pour le FLN. C'est à Neuchâtel, c'est à 60 km de Lausanne. De cela, nous n'en avons jamais parlé. Hein, j'ai appris la chose qu'il faisait ses passages après 62, quand l'Algérie était indépendante, etc. L'un des passeurs avec lequel, du côté français avec lequel il travaillait beaucoup à ce moment-là, c'était Georges Mattei et Gérard Chalion. C'était les deux, Gérard Chalion aussi, qui faisait des passages avec lui. Donc, il y a eu une activité importante. Il a été également, quand il y a eu le 17 octobre 61, le FLN, l'organisation du FLN, a demandé aux gens des réseaux d'être présents sur la manifestation, de ne pas y entrer. Il y avait une instruction très stricte, vous n'entrez pas dans la manifestation, mais vous êtes spectateur et vous pourrez juger comment les événements se passent. Et on sait comment ils se sont passés. Et il y a du reste là, une très jolie anecdote. À un moment donné, ils sont deux, il y en a d'autres, lui est avec Jean-Philippe Talbot, qui était une des personnes les plus proches de François, très très proche, pour François lui-même. Jean-Philippe Talbot travaillait aux éditions, enfin de son vrai nom, Jean-Philippe Bernigaud, qui signait Talbot, qui avait été fait la guerre, qui avait été parti comme rappelé, et qui avait publié un très beau témoignage dans Les Temps modernes, sur rappelé contre sa guerre et contre la torture. Et il travaillait aux éditions Maspero. Il était responsable, je crois, des relations essentiellement avec les libraires. Et jusqu'au bout, je me souviens, quand je rencontrais François, jusqu'au bout, il me parlait de Jean-Philippe. Et donc, ils étaient les deux dans la manifestation du 17 octobre. Et à un moment donné, il y a des policiers qui tabassent très violemment des manifestants algériens. Et Jean-Philippe Talbot ne se retient pas et crie « fasciste nazi ». Et Maspero a dû lui dire « Tu te tais, on est là pour regarder, on n'est pas là pour se révolter ou manifester, on est là pour témoigner demain de ce qui est en train de se produire. » Donc, François était aussi très important dans la publication de la revue de Janson Vérité Pour. Il avait un lien étroit avec lui. Vérité Pour était la publication du groupe du réseau Janson, et François y contribuait très, très, très activement. Du reste, Janson ayant été ayant quitté lors de l'arrestation de son réseau, quitté la France et s'étant réfugié pour un temps en Suisse, François est venu en Suisse pour le rencontrer, pour réorganiser les choses. Donc était extrêmement, à la fois, il y a l'engagement éditorial qui s'élargit sans cesse, il y a l'engagement concret, physique, dans la lutte de libération aux côtés du FLN, et il faut quand même rappeler que c'est une toute petite minorité, toute petite. Hein. Janson estimait à 5000 les gens qui avaient soutenu les Algériens dans les réseaux. On sait qu'il y a eu un bon millier de réfractaires qui se sont insoumis, désertés. Bon, ça fait 6000, 7000, disons 7000. On peut penser que beaucoup de gens ont fait des choses beaucoup parce qu'ils connaissent un Algérien dans une usine, un travail, etc. Donc, et puis des gens qui auraient fait quelque chose mais qui n'ont pas été en contact. C'est le hasard qui vous fait souvent contact dans ces situations-là. Hein. Vous pouvez vous souhaiter être en contact avec les Algériens pour les aider, puis jamais rencontrer la personne dans une situation de guerre. Donc, moi je dis, multiplions ça par 100. On arrive à 700 000. La population française, c'était 45 millions. Ça ne fait pas 2%. C'est ça, la solidarité avec les Algériens pendant la guerre d'Algérie. Il ne faut pas se faire d'illusions. La grande majorité qui dénonçait la guerre d'Algérie était paix en Algérie, mais ça ne signifiait pas du tout Algérie indépendante. C'était deux choses très distinctes. Et ça, c'est un clivage qui doit être bien compris aujourd'hui. Hein. On n'en a pas toujours conscience. La majorité de la population française était contre la guerre d'Algérie. La majorité s'est engagée. Dans cette majorité, une bonne partie a été favorable. Mais celle qui a été concrètement solidaire avec les Algériens, c'est une toute petite minorité. Même dans les libéraux qui étaient favorables à l'Algérie, on peut dire, pendant le 4 ans, Servan-Schreiber, l'Express est un journal qui a joué un rôle positif. Eh bien, quand il y a eu les 121, la signature de 121, Servan-Schreiber a dit « Il faut juger ceux qui signent. Hein » Parce qu'ils ils sont passés de l'autre côté. Donc, François est ceux qui sont passés de l'autre côté. Hein. Donc, il faut le dire, il faut le comprendre, c'est important, parce que tout ça, c'est le reflet de cette époque. Effectivement, avec le problème du plasticage, il y a quand même eu la librairie de la Joie de Lire était protégée par des groupes qui venaient se mobiliser dans la période finale de l'OAS pour empêcher le plasticage de la librairie. En même temps, c'est vrai que le Dream Team n'était plus là et que la librairie s'était beaucoup développée, agrandie et avait multiplié son personnel et engageant du personnel engagé politiquement souvent, mais chacun pour son groupe, chacun pour sa chapelle, chacun pour son groupe, et donc qui pillait activement la librairie, qui partait, les employés de la librairie venaient et partaient avec des valises pour les vendre dans une fac ailleurs, hein, qu'ils volaient à la librairie. Ouais, et je parlais avec François, il me dit, et je ne peux pas appeler la police, parce que Maspero ne peut pas appeler la police. C'est pas possible. Et donc, ça a amené, effectivement, psychologiquement, et tout, à la crise qu'on sait. Merci.
Merci beaucoup, Niels, pour ce témoignage. C'est un témoignage précieux, extraordinairement précieux. Je voudrais le souligner auprès de vous, parce que c'est très rare qu'on entende aussi précisément les choses qui ont été vécues à cette période par les gens qui les ont vécues. Voilà, merci encore Niels. Alors, on va terminer, parce qu'on arrive vraiment à 20h, par une double lecture de Lila. Deux extraits d'écrits de François, un écrit de François et une traduction de François, puisqu'on a parlé de son grand travail de traducteur, qui est mal connu, je crois. Donc, à toi, Lila, pour un premier texte de François, hélas court parce que on est un peu pris par l'heure, et puis ensuite une traduction.
Alors, Transit et compagnie, que vous retrouverez dans le numéro. On peut diviser le monde selon bien des critères, mais il en est un, en tout cas, que je retrouve partout. Il est d'une simplicité biblique. Parmi les habitants de notre monde, il y a ceux qui peuvent voyager et ceux qui ne le peuvent pas. Je ne parle pas seulement de la question des moyens financiers qui a existé de tout temps. Je parle des frontières que les uns ont le droit de franchir, ce droit proclamé à la libre circulation des biens et des personnes, qui doit être aussi naturel que de respirer, et qui, pour les autres, plus nombreux, comptés en milliards d'êtres humains, sont interdites. Et comme c'est bien souvent chez les seconds que nous conduisent nos échappés, nous qui avons ce droit, que pouvons-nous leur répondre quand ils nous adressent cette phrase qui n'est pas forcément de simple politesse, qui peut être l'une des plus belles phrases au monde ? Et quand tu repasseras par chez nous, sache que ma maison te sera toujours ouverte. Aurons-nous l'inconscience ou le cynisme de répondre que, quand ils passeront par chez nous, la nôtre aussi le sera ? À eux pour qui restent hermétiquement fermés les guichets des consulats, les barrages des checkpoints, les barrières des postes frontières ? Et puis la traduction d'un poème, Poèmes humains, de César Vallejo. Il aimait écrire de son gros doigt dans l'air « Vive les camarades !» de Pedro Rojas, de Miranda de l'Ebre, père et homme, mari et homme, cheminot et homme, père et plus homme encore, Pedro et ses deux morts. Papier de vent, ils l'ont tué, faites passer. Plume de chair, ils l'ont tué, faites passer. Prévenez vite tous les camarades. Poteau à quoi ils ont fixé sa poutre, ils l'ont tué. Ils l'ont tué au pied de son gros doigt. Ils ont tué d'un coup et Pedro et Rojas. Vive les camarades! Écrit au plus haut de l'air, vive avec ce V du vautour dans les entrailles de Pedro et de Rojas, du héros et du martyr. Après sa mort, en le fouillant, ils ont découvert dans son corps un grand corps pour l'âme du monde. Et dans sa veste, une cuillère morte. Pedro aimait aussi manger parmi les êtres nés de sa chair, arranger, peindre la table et vivre dans la douceur au nom du monde entier. Et il gardait toujours cette cuillère dans sa veste, qu'il soit éveillé ou qu'il dorme, toujours cuillère morte vive, elle et ses symboles. Prévenez vite tous les camarades. Vive les camarades, à jamais debout devant cette cuillère. Ils l'ont tué. Obligeant à mourir est Pedro et Rojas, l'ouvrier, l'homme, celui qui naquit si petit en regardant le ciel et qui grandit ensuite, se colora de rouge et lutta avec ses cellules, ses noms, ses encore, ses fins, ses morceaux. Ils l'ont tué lentement dans les cheveux de sa femme, Juana Vasquez, à l'heure du feu, en l'an des fusillades, et quand il était déjà près de tout. Mais voici qu'après sa mort, Pedro Rojas s'est levé, il a embrassé le catafalque ensanglanté, il a pleuré pour l'Espagne, puis écrit de nouveau avec son doigt dans l'air « Vive les camarades, Pedro Rojas !» Le monde entier tenait dans son cadavre.
Alors, je crois que maintenant, il y a un petit temps de débat qui est prévu. Si vous voulez bien poser vos questions ou intervenir, avec plaisir.
Oui, si vous permettez, d'abord, je voulais vous remercier. Et j'ai trois observations qui sont aussi des questions. La première, elle est que quand étudiante, je lisais Maspero, c'était toujours une maquette bien particulière. Et en tant que lectrice aujourd'hui, je n'ai jamais retrouvé une maquette pareille. Donc, je voulais savoir si vous aviez une précision sur le choix de cette maquette. Deuxièmement, Maspero, c'est justement, vous le disiez ô combien, c'était les traductions. Alors, aujourd'hui, on a peut-être l'impression que le monde de l'édition ou ne trouve plus des traducteurs ou n'en fait pas beaucoup de choix. Et donc, je voulais savoir comment Maspero arrivait à trouver des traducteurs aussi talentueux et comment il arrivait à faire passer autant de, d'ouvrages en français. Et la troisième, le troisième point serait que quand on étudiait les libertés publiques, eh bien, on ne pouvait pas se passer, et pas un seul, mais c'était innombrable, les arrêts en Conseil d'État, qui sont des arrêts Maspero. Et la voie légale et la voie jusqu'en Conseil d'État sur la liberté de publier, de communiquer, et ainsi de suite, c'était aussi un choix, il me semble, chez Maspero. C'est-à-dire que il y avait l'édition, il y avait l'action directe, si on peut employer encore ce terme sans se méprendre, et il y avait aussi la voie légale. Alors, sur ces trois petits points, peut-être, si on veut bien. Merci.
Je veux bien commencer à deux, trois éléments de réponse, puis je pense que tu en as d'autres. D'abord, sur la maquette des livres, sur les livres en général, il faut savoir que François Maspero faisait les maquettes de livres. C'est-à-dire tout ce que je parle des éditions Maspero. Hein, il faisait des maquettes des livres. Lorsque le dernier livre aux éditions du Seuil sur les traductions de César Valero, les éditions du Seuil, Yannick Morvan, malheureusement, qui n'a pas pu être là ce soir, il a travaillé sur la maquette. Hein. Et le livre qu'on a fait ensemble, qui retrace, bon, qui est un complément hein, de ce numéro de revue, donc François Maspero et les chemins humains, François a demandé à faire la maquette. Et les paysages humains, oui. Et François a demandé à faire la maquette avec son ami Patrick Lescure, qui est graphiste. Moi, je lui ai dit oui, bien évidemment. Donc, c'était un homme de l'écriture, je dirais. De l'écrit et de l'écriture. Hein. Et donc, les maquettes, il les a fait, voilà, jusqu'au bout, pratiquement seul, hein, se faisant accompagner par des graphistes, entre autres des graphistes, les graphistes polonais, hein, l'école des graphistes polonais, sur un certain nombre d'ouvrages. Voilà, ça, c'est un... Par rapport
oui,
à...
Moi, je reconnais bien là la passion de l'édition. Je dois dire que je fais très souvent mes maquettes moi-même parce que c'est le complément, je dirais, vraiment indispensable de l'intérieur, de l'écriture, de la mise en page, de tout ça. Alors après, on peut effectivement se faire aider. Mais il y a quelque chose qui va jusqu'au bout. C'est l'artisanat aussi, quelque part. C'est une passion, voilà, c'est tout.
Alors, le chiffre que j'ai donné sur les traductions, c'est les traductions faites par François Maspero lorsqu'il a quitté la maison d'édition. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est retrouvé dans le travail d'écriture, il a tout de suite été capté sur les... Bon, alors c'est aussi les amitiés qui ont joué. Hein, des gens qui ont commencé à lui amener des livres à les traduire. Et puis après ça, François, il a trouvé aussi à aller chercher des textes et des éditeurs sur certaines traductions. Entre autres, une dont on parle dans cet ouvrage-là, hein, sur Primo Levi. Voilà. Il a fait ça avec un formidable éditeur lyonnais, La Fosse aux Ours. Voilà. Donc, mes 85 traductions, c'est son travail post-maison d'édition. Dans la maison d'édition stricto sensu, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de traductions, sauf sur l'Europe de l'Est, parce que Paris était... les intellectuels parlaient français à l'époque, voilà. Hein. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de traductions. Mais là, je ne sais pas, Nils, peut-être tu le sais mieux que moi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de traductions dans les éditions Maspero. Les 85, c'est vraiment après Maspero. Je voudrais dire une chose sur Annie Morvan. Malheureusement, elle n'était pas là ce soir. Elle a, dans le texte, dans sa contribution, elle dit fondamentalement, François est un écrivain. Donc nous, on est en contact avec Julia Maspero, qui porte la mémoire de son père, mais également les archives. Et je dis à Julia, il y a un premier roman de François. tu dois l'avoir dans les archives. Bon, elle l'a trouvé. Mais malheureusement, le numéro était sorti. Elle m'a dit, Bruno, elle m'appelle, mais je dis, trop tard, le numéro est sous presse. On ne peut plus en faire référence. Donc, enfin, on ne peut pas le mettre des extraits. Et donc, il y a le premier roman de François, il existe, il a 17 ans, je crois à peu près 17 ans. Donc, c'est d'abord et avant tout un écrivain. Mais cet écrivain-là, je suis sûr, il est né le 28 juillet 1944. J'en suis sûr et certain. Il est né ce jour-là. Voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'il y avait une autre... Non, je ne sais pas. Peut-être qu'on a répondu à tout. Ah, les arrêts en Conseil d'État. Alors, il y a deux temporalités sur les interdictions de livres. Pendant la guerre d'Algérie, les livres sont saisis. Les livres sont fabriqués chez François dans sa cuisine. Enfin bon, là, il pourrait expliquer tout ça. Hein, les livres sont fabriqués parce que François sait qu'il va être saisi. Hein. Donc il essaye d'en sauver. Il n'en a pas sauvé beaucoup. Enfin voilà. Mais quand même, il en a sauvé quelques-uns. Après ça, Nils les rééditait, les envoyait par colis postaux en France. C'était ça la démarche. Mais là, il n'y a eu aucun procès. Parce que le gouvernement dit procès, bingo. On va dénoncer la guerre d'Algérie. Donc, pendant toute la période de la guerre d'Algérie, il n'y a pas de procès. C'est après, dans ce que Nils appelait les luttes anticoloniales. Là, effectivement, et puis au moment de mai 68, hein, il y a des interdictions. Là, il y a des interdictions et il y a des procès et il y a des arrêts au Conseil d'État. Bon, François, il y a eu beaucoup d'amendes, hein, beaucoup d'amendes autour des interdictions. Il a évité la prison. Hein, et il a toujours un mot de remerciement quand il était vivant, qu'on faisait des conférences. Il avait un mot de remerciement à l'égard d'une magistrate qu'il avait condamné à je ne sais pas combien de milliers de francs d'amende, mais qui lui avait préservé ses droits civiques et civils. Voilà. Ils m'ont quand même préservé ça. Mais il a frôlé la prison plusieurs fois et les amendes ont été considérables. Je n'ai pas le chiffre dans la tête là aujourd'hui. Les arrêts au Conseil d'État, c'est effectivement... moi, j'étais étudiant en droit. On étudiait les arrêts Maspero. Voilà, je me rappelle de ça. Oui. Nils, tu peux compléter, je pense.
Oui, très brièvement. Je crois d'abord, effectivement, vous avez raison d'attirer l'attention sur l'importance. Il n'y a qu'à voir le nombre de collections qu'il y a et la richesse des couvertures. Hein, et ça, c'est vraiment le travail de François. C'est vraiment son travail à lui. Et là, je crois qu'il y a aussi une chose qui a beaucoup changé, c'est le rapport au livre et le rapport surtout au papier et plus que tout au plomb. Le plomb, c'était... On avait d'abord affaire à des imprimeurs pour lesquels c'était un métier. Hein. C'est pas la PAO. Vous savez, la PAO, ça... Aujourd'hui, c'est complètement... c'est un travail de bureau, quoi, enfin. Hein. À l'époque, on avait affaire à un métier qui était de gens attachés à leur métier, avec une tradition aussi de liberté, d'opinion, de presse qui remontait. C'était un des métiers plus attachés à ça. Donc, le rapport avec l'imprimeur n'était plus du tout ce qu'il est aujourd'hui, où on envoie un texte par Internet et ça devient un livre. Hein. Donc, là. Et donc, François était totalement là-dedans, à la fois avec le caractère, l'imprimeur, le choix du caractère et la maquette. Ça, il s'y est engagé totalement. Une deuxième chose qu'il faut aussi signaler, c'est très curieusement, l'édition Maspero, c'est immense. Hein, si vous regardez le catalogue, c'est immense. Et François avait une insatisfaction profonde. C'était la littérature. Il y a de très beaux textes littéraires chez François, mais c'est une petite partie du catalogue. Et il aurait voulu être aussi, être aussi riche qu'il avait été dans deux domaines, dans le domaine de la littérature. Et ça, il en parlait souvent. C'était une de ses nostalgies. C'est donc bien l'écrivain aussi. Il avait été un éditeur politique, révolutionnaire, tout. Il avait aussi été un éditeur littéraire, mais pas avec la place qu'il lui accordait.
Sur la question du graphisme, en fait, François connaissait pas le... Il a découvert le métier. Hein. Il a découvert le métier avec un formidable artisan qui s'appelait Guy Lévis-Manot. hein, qui est devenu un ami de François Maspero, qui l'a formé au plomb, voilà, tout bêtement, et qui l'a formé au caractère. Et voilà, et ça, c'est depuis le premier livre, hein, depuis le premier livre sur la guerre d'Espagne. C'est avec Guy Lévis-Manot qui a un peu été le formateur. On en parle dans le. Parce que c'était un personnage remarquable, et les livres de Guy Lévis-Manot, lui aussi, il était un peu comme François Maspero. Traducteur, écrivain, éditeur, et puis il avait ce savoir-faire, hein, ce savoir-faire professionnel de la beauté d'un livre. Hein. Et allez voir, si pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous tapez sur Internet Guy Lévis-Manot, et si vous êtes intéressé par le livre, oui. La beauté est là. Oui. La beauté est là. Et il y a le fonds Guy Lévis-Manot existe dans la Drôme, là, et là, on trouve encore à acheter ces livres, hein, d'occasion, et voilà, c'est toujours quelque chose d'assez émouvant.
Il avait sa librairie pas loin
du Montparnasse.
Oui, pas loin du Montparnasse, et c'était une petite librairie avec une, alors lui, des éditions très limitées, comme souvent, très appliquées. Mais vous avez parlé aussi des saisies. François était le plus saisi avec l'édition de Minuit. Il y a eu, pendant la guerre d'Algérie, 32 livres saisis par le gouvernement. Aucun de ces livres n'a disparu de la diffusion. Et ils ont continué tous à être imprimés en France et diffusés en France, à part quelques-uns qu'on a réédités en Suisse dans la phase initiale. Ils ont tous continué. On pouvait, jusqu'à la fin de la guerre, on pouvait obtenir les livres saisis, les éditeurs continuaient à les produire. Le problème de la diffusion, le handicap, c'était beaucoup de librairies n'en voulaient pas. Hein, beaucoup de librairies n'en voulaient pas, et même certaines, quand il y avait une saisie, parce qu'épisodiquement, le gouvernement français revenait saisir la question ou revenait saisir les livres de François, épisodiquement, les libraires demandaient le remboursement à l'éditeur du livre saisi. Donc, il y avait peu de collaboration de ce côté-là.
Alors, chers amis, je crois qu'on va être obligés d'arrêter pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la MSH va nous mettre dehors. Voilà. Et puis aussi, parce que notre ami Bruno a un train. Donc, ça nous amène à être obligés d'écourter peut-être de quelques minutes. Hein, mais ça sera vraiment... On était de toute façon obligés d'arrêter. Je voudrais vous remercier encore une fois. Remercier encore une fois Entrevue et son équipe qui est là, physiquement présente, et la Maison des sciences de l'homme. Et si vous avez des questions, peut-être que vous aurez des réponses dans le numéro. Hein, je vous invite à le consulter là-bas, éventuellement à l'acquérir. Sinon, bah, vous pouvez toujours nous poser vos questions par mail. Hein, on les transférera, il n'y a pas de souci, vous aurez des réponses.
Merci. Merci.